Aujourd'hui, mon invité de la rédaction est Pierre Klein, le président de la Fédération Alsace Bilingue, qui regroupe 21 associations qui travaillent à la promotion de la langue et de la culture régionale. Pierre Klein, bonjour.
Bonjour.
Le principe de l'immersion en langue régionale par la loi MOLAC a été adopté en première lecture, c'était le 8 avril dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, permettez-moi une petite rectification. La proposition de loi MOLAC était d'abord passée en première lecture à l'Assemblée nationale. Le texte avait été retoqué. Néanmoins, il y a des sénateurs, donc elle est passée en première lecture au Sénat, et le Sénat a adopté la proposition MOLAC telle qu'elle était, y compris donc l'immersion. La proposition est ensuite retournée à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, avec le principe de l'adopter telle qu'elle, sinon ça aurait relancé les débats. Et aux grandes surprises, l'Assemblée nationale, donc en deuxième lecture, a adopté le texte tel qu'il était sorti du Sénat, incluant donc le principe de l'immersion.
Oui, donc c'est le Conseil constitutionnel qui a retoqué ce principe. On y reviendra tout à l'heure. Expliquez-nous ce que c'est cette immersion.
Alors, l'immersion peut avoir différents degrés. Ça peut être une immersion partielle ou une immersion totale. L'immersion consiste à plonger l'enfant dans un bain linguistique, en l'occurrence de la langue seconde. Ce principe permet d'arriver en bout de course au CM2 à une équivalence de compétences des langues. Pourquoi elle est nécessaire, cette immersion? Parce que l'enfant, lorsqu'il arrive à l'école, en petite section de l'école maternelle, il parle déjà une langue, en l'occurrence la langue française. Mais, étant donné qu'il faut, pour arriver à une équivalence de compétences, un minimum de 2 heures de bain linguistique dans la langue seconde par jour, il y a donc lieu de rattraper les 3 années que l'enfant a déjà perdues, entre guillemets, de sa naissance à la petite section de la maternelle. Donc, c'est un renforcement de bain linguistique. Alors, l'immersion peut être partielle, elle peut être totale. Partiel, ça veut dire, par exemple, en petite section, on commence par plonger l'enfant dans la langue seconde à raison de 50% de l'emploi du temps. Donc, présence partagée du français et de l'allemand ou de l'alsacien, en l'occurrence ici en Alsace. Ou alors, elle peut être totale, c'est-à-dire qu'à l'école maternelle, petite, moyenne, grande section, l'enfant est uniquement mis en présence de la langue seconde, c'est-à-dire de l'allemand ou de l'alsacien. En gros, c'est ça l'immersion. Elle est pratiquée déjà en Alsace, non pas par l'éducation nationale, mais par le système associatif des écoles ABCM. ABCM voulant dire Association pour le bilinguisme en classe dès la maternelle. Alors, depuis quelques années, les écoles ABCM mettent en œuvre une immersion qui, à un moment donné, avait fait un clash au niveau du rectorat de Strasbourg. Mais les dernières nouvelles d'Alsace, en l'occurrence Jacques Fortier, avaient soulevé le lièvre et le rectorat a finalement cédé en permettant une expérimentation aux écoles ABCM sur 5 ans pour voir les résultats. Donc, elle est pratiquée en Alsace par les écoles ABCM. Les écoles ABCM, ce sont des écoles qui sont financées, en gros, pour moitié par les collectivités territoriales, en l'occurrence maintenant la région Grand Est et la collectivité européenne d'Alsace, et pour moitié par l'État, parce que la moitié du corps enseignant des écoles ABCM est contractualisé, donc payé par l'État. Le restant des enseignants, parce que je fais partie aussi du conseil d'administration de ces écoles, le restant des enseignants, nous pouvons les payer avec les subventions que nous recevons donc des collectivités. Les écoles ABCM pratiquent la méthode suivante. À l'école maternelle, petite, moyenne, grande section, un jour il y a de l'alsacien, le lendemain il y a de l'allemand. Et ceci donc jusqu'aux grandes sections de l'école maternelle. Au CP, le CP est entièrement en allemand. Pourquoi? Essentiellement parce qu'on apprend plus facilement la lecture en allemand qu'en français. L'allemand s'écrit comme il se prononce, en quelque sorte. Et le français, ensuite, est introduit à égalité avec l'allemand et tout le reste de la scolarité, sachant que les dialectes restent présents, en gros, à raison de 10% du temps scolaire.
C'est intéressant, ça, pour des enfants qui ont des parents dialectophones, ou pas forcément?
Non. La plupart des parents ne sont pas dialectophones. La plupart des parents viennent d'ailleurs d'autres régions de France et ils sont intéressés par cette possibilité qui existe. Le système bilingue, qu'il soit immersif ou pas, n'est en France possible que là où des langues régionales sont reconnues.
En Bretagne, en Alsace, dans le Pays Basque.
En Pays Basque, en Occitanie, en Catalogne. Voilà. Ceux qui sont les plus avancés, ce sont les Basques. Les Basques scolarisent la moitié de leur population scolaire en langue basque, en système paritaire français-basque. Hein. Voilà. Ils sont les plus avancés parce qu'ils sont très motivés et puis ils poussent à la roue, hein, beaucoup plus que nous en Alsace. On est un peu timorés, on porte encore certains complexes, oui, qui viennent de l'histoire, etc. On va pas délayer là.
Et vous pouvez nous expliquer maintenant pourquoi le Conseil constitutionnel a retoqué ce principe de l'immersion? Pour quelle raison?
Alors, c'est très difficile. En principe, on n'a pas le droit de commenter des décisions de justice. Hein. Mais bon, on peut quand même donner un point de vue. Il me semble que la décision est idéologique. Pourquoi je me permets de dire cela? Parce que l'immersion n'est pas une modalité juridique. L'immersion est une modalité pédagogique. C'est quelque chose qui permet d'arriver à l'équivalence de compétences entre la langue première et la langue seconde de l'enfant. Et j'ajoute, l'immersion permet même, et ça nous le testons, nous, dans nos écoles, un renforcement de la langue première. Les enfants qui sont dans ce système-là sont meilleurs en français que les monolingues. Ça, c'est prouvé scientifiquement et nos enfants sont testés sur ce sujet. Donc, l'immersion n'entrave en rien la présence, ni la présence de la langue française dans les écoles, ni la présence de la langue française comme langue de l'existence sociale et culturelle en France. L'immersion, ne détruit pas la présence de la langue française. La langue française est la langue de la République, c'est chose communément admise, personne ne remet ça en question, mais l'immersion n'empêche pas que l'on utilise le français quand on va à la poste ou au tribunal. Le président Macron et le premier ministre viennent d'ailleurs exprimer aussi leur étonnement à ce sujet.
Ainsi que la classe politique locale.
C'est une position que plus ou moins jacobine. Je dirais, la France, elle se fait mal avec sa propre diversité. Elle a du mal à reconnaître sa diversité parce que on fait reposer la nation française essentiellement sur la connaissance de la langue française. Ce serait la langue française qui ferait le lien de la nation. C'est-à-dire, on est là dans une définition objective de la nation, une langue, une culture, une histoire, etc. Mais moi, j'ajoute, peut-être, évidemment, il y a cet aspect-là, mais qu'est-ce qui distingue un germanophone d'un francophone? Tout le monde dira c'est la langue. Mais qu'est-ce qui distingue un francophone suisse d'un francophone français? Qu'est-ce qui fait de l'un un suisse et de l'autre un français? Ce n'est pas la langue, c'est la culture et notamment la culture politique, c'est-à-dire ce qu'on met dans la tête des gens au niveau de la socialisation, c'est-à-dire principalement à l'école et dans les médias. J'ajoute, ceux qui suivaient le maréchal en 40 et ceux qui suivaient le général en 40, ils parlaient la même langue. mais ils étaient unis en rien. Vous voyez ?
Oui.
C'est pour ça, moi je définirais plutôt la nation par l'expression d'un sentiment d'appartenance et par la volonté d'être et d'agir ensemble. Ça, c'est la définition subjective de la nation. Mais en France, on n'a jamais fait le choix entre les deux définitions. Et en fait, autour de 1793-1794, les Jacobins ont fait faire la culbute. Et ils ont, en quelque sorte, instrumentalisé cette définition de la nation. Ils l'ont imposée. Voilà. C'est comme ça, c'est l'histoire. Hein. Et nous confrontons à cela. Mais heureusement que voilà, le président de la République a quand même fait savoir que ça n'avait rien à voir. L'immersion, c'est un moyen pédagogique. Ce n'est pas quelque chose qui est contre la langue française. Hein.
Oui, il y a un recours qui a été déposé devant le Conseil par les députés LAREM. Il a des chances d'aboutir.
Les députés de En Marche avaient déposé un recours et donc il y a eu sentence. Le Conseil constitutionnel s'est exprimé suite à ce recours en disant, en retoquant l'immersion dans la loi, en disant que l'immersion est anticonstitutionnelle.
Et comment ça se passe au niveau européen?
Le recours européen est possible, mais ça nécessite de franchir un certain nombre d'étapes pour arriver
oui.
à la Cour européenne de justice. Le recours, si vraiment le président Macron et le Premier ministre sont convaincus de ce qu'ils disent, il faut maintenant déposer une loi constitutionnelle au Parlement et réformer ce fameux article de la Constitution. Cet article, il est très récent finalement. Il date du début des années 2000. Déjà à l'époque, il y avait eu un énorme débat autour de cette question-là. Et l'article, la proposition à l'époque consistait à dire le français est la langue de la République, ce qui ne défavorise en rien l'existence ou ce qui ne méconnaît pas l'existence d'autres langues de France. Il suffirait de rajouter cela. Il y a eu aussi en 1999, le même débat était à l'ordre du jour lorsqu'il s'est agi de signer la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. À l'époque, Jospin, Premier ministre, avait envoyé son ministre des Affaires européennes signer la Charte. La Charte, elle est signée par la France.
Oui.
Mais pour qu'elle soit mise en œuvre, il faut qu'elle soit ratifiée par le Parlement. Et quelques semaines après la signature, le président Chirac a saisi le Conseil constitutionnel pour savoir si la charte n'était pas anticonstitutionnelle. Et le Conseil, déjà à l'époque, avait dit que la charte était anticonstitutionnelle puisqu'elle se mettait en opposition au principe de l'unicité de la langue française.
Donc c'est un vieux
donc,
débat.
C'est récurrent, ce débat est récurrent, il est ancien, et en quelque sorte, vous savez, pratiquement toutes les démocraties d'Europe ont signé, ratifié et mis en œuvre cette charte. La France est le dernier pays à ne pas l'avoir fait, à ne pas la mettre en œuvre, avec la Grèce et la Turquie, si on considère que la Turquie fait partie de l'Europe. Voilà. Donc, il y a ce côté national, pour ne pas dire nationaliste, de la définition de la langue. La France est gênée aux entournures en ne reconnaissant pas sa propre diversité. Une langue n'a jamais empêché l'existence d'une autre langue.
Surtout que ces langues existent. Même si ça n'a pas été légiféré, elles existent. Elles sont sur le territoire et certaines... plus vivantes que d'autres.
Elles existent, mais elles sont moribondes. Hein. Elles sont moribondes. Bon, vous savez, la situation est quand même extrêmement grave. Il ne faut pas se voiler la face. En Alsace, à l'heure actuelle, dans les petites sections des écoles maternelles, qui ont fait un recensement de la connaissance dialectale, on se rend compte que même pas 1% des enfants ont été familiarisés au dialecte. Certes, plus on monte dans l'échelle des âges, les gens autour de 60, 70 ans, il y a peut-être encore 40 à 50% de locuteurs. Mais plus on rajeunit, moins c'est le cas. Moi, j'étais prof dans un lycée de Haguenau. Les 20 dernières années de mon enseignement, je n'ai plus entendu de jeunes parler dialecte entre eux. Autrement dit, la non-reconnaissance de la langue régionale, particulièrement en Alsace, a conduit à son déclin.
Et ça, ça date d'il y a quelques années déjà, bien après-guerre.
Les Alsaciens s'étaient battus dans les années 20 et 30. Ils avaient obtenu quasiment un bilinguisme. Moi, mes parents ont bénéficié de l'enseignement des deux langues avant 40. Hein. Mais il y a eu le traumatisme de 40 à 44. L'annexion nazie, c'est un traumatisme très grave dans la psyché alsacienne. Et la période post-traumatique a conduit les Alsaciens à se retourner contre eux-mêmes, contre la part allemande de leur identité. Il ne faut pas le nier, ça, quand même. Moi, je m'appelle Klein, je ne m'appelle pas Petit. Hein, bon. Et donc, pendant les 70 ans qui ont suivi la guerre, ben, voilà, on était bourrés de complexes. Voilà. Et les Jacobins, évidemment, ont profité de cette situation pour mettre en place, après 45, ce qu'ils n'ont pas pu faire avant 40. C'est-à-dire, l'allemand a connu des interdits. L'allemand a été interdit en 45 dans les écoles primaires. L'allemand a été partiellement interdit dans les médias, etc., etc. Et les Alsaciens ont courbé les chines. Et maintenant, il est bien tard. On a laissé filer des décennies en ne rien faisant et surtout en ne bataillant pas pour cette cause-là. Parce que les Basques nous donnent l'exemple. Et si l'on veut, vraiment, on peut. La France est une démocratie. Et en démocratie, on respecte les fortes demandes sociales. Mais les Alsaciens, en la matière, ils sont croyants, mais ils ne sont pas pratiquants. Lorsque la Fédération, on organise une manifestation avec les autres collègues de France. À Bayonne, ils sont 10 000 dans la rue. Et le Pays Basque français, c'est très petit. C'est un arrondissement chez nous. Alors que nous, on arrive à mettre 500 personnes sur la place Bondy à Strasbourg. Vous voyez, on n'est pas encore sorti de ce post-traumatisme. Moi, je dis que 75 ans après, le temps de la résilience doit être venu. Et il faut enfin s'appliquer le principe nietzschéen de « deviens qui tu es ». Là, on en parle à la radio, c'est super. Mais est-ce qu'il y a un débat, je parle des médias publics, sur ces questions-là en Alsace? Est-ce que les Alsaciens ne sont pas livrés à eux-mêmes par rapport à ce questionnement? Ce qui fait, en fin de compte, que chacun développe ses propres fantasmes sur le sujet, mais on ne partage pas quelque chose sur le sujet. Moi, je me souviens d'un temps, et comme dit dans la chanson, hein, il y a 20 ans en arrière, Raymond Madsen, directeur de l'Institut de dialectologie, avait une émission. Germain Muller avait une émission. Roger Siffert avait une émission. Jean-Jacques Chetel avait une émission. Emma Gunz avait, vous vous rendez compte, Emma oui. Gunz faisait sur François Alsace une émission sur la poésie. Ben, on tombe sur le cul. Pardon, excusez-moi l'expression, mais bon, en fait, on le sait très bien, France 3, ça devrait être la chaîne des régions, mais en fait, on applique des programmes qui sont faits à Paris, qu'on diffuse à travers toutes les régions, avec de petits décrochages.
Il y a des petits modules en alsacien, il y a une émission quand même qui passe en alsacien, voilà. Oui, c'est vrai.
Voilà. Ça, c'est pour le fun. Si vous voulez, ça fait plaisir aux locuteurs existants. Mais ça ne permet pas de gagner des locuteurs.
Pierre Klein, président de la Fédération Alsace Bilingue, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions à propos de l'immersion de la langue régionale. Donc, vous nous avez parlé et c'était très, très clair. Merci à vous pour votre temps que vous nous avez offert.
Merci.